Chapitre 11. Contenant beaucoup de règles et quelques exemples sur la manière de devenir amoureux. Description de la beauté. Plusieurs autres motifs plus raisonnables pour se déterminer au mariage. Il a été observé par des sages, j'ai oublié de quel sexe ils étaient, que tout le monde est condamné à devenir amoureux une fois en sa vie. Je ne me souviens pas non plus que le temps en ait été fixé. Mais l'âge auquel Miss Bridget était parvenue me paraît une époque aussi convenable qu'aucune autre. Je conviens que cela arrive souvent beaucoup plus tôt. Mais dans le cas contraire, j'ai observé que cela manque rarement ou même jamais à cette époque. Nous pouvons remarquer en outre que dans cette saison de la vie, l'amour est d'une nature plus sérieuse et plus calme que dans la jeunesse. Celui des jeunes filles est incertain, capricieux et si étourdi qu'on ne peut jamais découvrir ce qu'elles veulent. On pourrait même presque douter si elles le savent elles-mêmes. Nous ne sommes jamais, au contraire, embarrassés de le discerner dans les femmes de 40 ans. Car des personnes que l'expérience a rendues si graves et si sérieuses doivent avoir acquis la connaissance de leurs véritables sentiments. Il est donc très aisé à l'homme qui a le moins de sagacité de s'en instruire avec la plus grande certitude. Miss Bridget est un exemple de la justesse de toutes ces observations. Elle n'eut pas fréquenté longtemps le capitaine qu'elle en devint amoureuse. Elle ne passa pas son temps à faire la sotte et la langoureuse en rêvant dans les environs du château comme une petite bête de jeune fille qui ignore son mal. Elle sentit, elle connut, elle éprouva avec plaisir cette agréable sensation dont elle n'était ni effrayée ni honteuse dans la certitude qu'elle avait qu'elle n'était pas seulement innocente mais louable. Et à dire vrai, il y a sous tous les rapports une grande différence entre la passion raisonnable que les femmes de cet âge éprouvent et cet amour nonchalant et enfantin d'une jeune fille, amour qui n'a souvent en vue que l'extérieur, et des choses de peu de valeur et d'aucune durée, telles que des joues couleur de rose, des mains blanches comme des lys, de grands yeux noirs, des cheveux flottants, des mentons de duvet, de belles tailles, et souvent des choses plus méprisables encore et totalement étrangères à la personne, tels que les ornements extérieurs, dont les hommes sont redevables tailleurs, à la marchande de dentelles, au perruquier, au chapelier, et non à la nature. Or, je conçois bien que les jeunes filles puissent être honteuses, ce qui leur arrive assez généralement, d'avouer une passion de cette espèce à elles-mêmes et aux autres. L'amour de Miss Bridget était d'une toute autre nature. La toilette du capitaine ne devait rien à tous ses fournisseurs de frivolité. Et sa personne n'était pas beaucoup plus redevable à la nature. L'une et l'autre étaient telles que si elles eussent paru dans une assemblée ou dans un salon, elles auraient été des objets de mépris et de ridicule pour toutes les jolies femmes. Sa toilette était propre, mais simple, grossière, mal entendue et hors de mode. Quant à sa personne, nous l'avons exactement décrite dans le chapitre précédent. La peau de ses joues était si loin de la couleur des roses qu'on aurait pu deviner quelle avait été leur couleur naturelle, étant totalement recouverte d'une barbe noire qui lui montait jusqu'aux yeux. Sa taille et ses membres étaient, il est vrai, dans les plus exactes proportions, mais si épais qu'ils semblaient appartenir à un valet de charrue. Ses épaules étaient d'une largeur démesurée, et ses gras de jambes plus charnus que ceux du porteur de chaise le plus occupé. En un mot, sa personne manquait entièrement de cette élégance et de cette beauté qui forment un parfait contraste avec la force grossière des habitants des campagnes et qui sied si bien à nos jolis messieurs. Avantage qu'ils doivent en partie à l'illustre sang de leurs ancêtres, formés des mets les plus délicats et des vins les plus exquis, et à l'éducation qu'ils ont reçue de bonne heure dans les plus brillantes sociétés de la ville. Quoique Miss Bridget fût une dame du goût le plus délicat, cependant, tels étaient les charmes de la conversation du capitaine qu'elle ne s'arrêta pas aux défauts de sa personne. Elle imagina, et peut-être très sagement, qu'elle jouirait d'un plus grand nombre de moments agréables avec lui qu'avec un mari beaucoup plus beau, et sacrifia le plaisir de satisfaire sa vue à l'avantage de se procurer un bonheur plus solide. Le capitaine ne s'aperçut pas plutôt de la passion de Miss Bridget, et il avait la vue extrêmement pénétrante dans ces sortes de découvertes, qu'il parut y répondre de bonne foi. La dame n'était pas plus que son amant remarquable par sa beauté. J'aurais essayé d'en faire le portrait au lecteur, mais il a déjà été exécuté par un plus grand maître, M. Hogarth, chez lequel elle s'était fait peindre un grand nombre d'années auparavant. Il vient de l'exposer au public dans son tableau d'une matinée d'hiver dont Miss Bridget était un emblème assez fidèle. On peut l'y voir marchant, car elle marche dans le tableau, vers l'église de Covent Garden, avec un petit laquais bien sec portant derrière elle son livre de prière. Le capitaine préféra aussi très sagement les jouissances plus solides qu'il espérait avec cette dame aux charmes personnels qui sont si peu durables. Il était du nombre de ces hommes sensés qui considèrent la beauté dans les femmes comme une qualité superficielle et de peu de valeur. Ou, pour parler plus vrai, il aimait mieux jouir de toutes les commodités de la vie avec une femme laide que d'une jolie femme avec laquelle il en souffrirait toutes les privations. Et, ayant un très bon appétit, mais un goût peu délicat, il s'imagina qu'il prendrait très bien sa part du banquet matrimonial sans l'assaisonnement de la beauté. Pour ne rien cacher au lecteur, avouons que le capitaine, depuis son arrivée, depuis le moment au moins que son frère lui avait proposé cette union, et longtemps avant qu'il eût découvert aucun symptôme flatteur pour lui dans Miss Bridget, était tombé éperdument amoureux du château, des jardins, des terres, des fermes et de toutes les richesses de M. Allworthy. Le capitaine en était si passionnément épris qu'il les aurait très probablement épousés lors même qu'il eût été obligé de prendre la pythonisse d'Andorre par-dessus le marché. M. Allworthy avait déclaré au docteur qu'il ne se remarierait jamais, et comme Miss Bridget était sa plus proche parente, ce respectable gentilhomme avait encore confié au docteur que son intention serait d'instituer pour ses héritiers les enfants de sa sœur, si elle en avait jamais, ce que la loi aurait fort bien fait pour lui sans qu'il s'en mêlât. Les deux frères crurent donc que c'était un acte de bienfaisance de donner le jour à une créature humaine qui devait être si abondamment pourvue de tous les moyens de bonheur. La difficulté n'était plus que de parvenir à gagner l'affection de cette aimable dame. Mais la fortune, qui est une tendre mère, et qui souvent fait pour ceux de ses enfants qu'elle favorise plus qu'ils ne méritent ou ne désirent, servit le capitaine avec tant d'habileté que, tandis qu'il formait des plans pour exécuter son dessein, Miss Bridget concevait les mêmes désirs à son égard et méditait de son côté comment la décence lui permettrait de donner des encouragements au capitaine sans cependant paraître trop empressée, car elle était sévère observatrice de toutes les règles du décorum. Elle y réussit facilement, d'autant plus que le capitaine était toujours aux aguets. Pas un coup d'œil, pas un geste, pas un mot ne lui échappait. La satisfaction que le capitaine éprouva de la conduite bienveillante de Miss Bridget n'était pas peu troublée par la crainte qu'il avait de M. Allworthy, car malgré le désintéressement dont ce respectable gentilhomme faisait profession, le capitaine imaginait que quand il s'agirait de conclure, M. Allworthy suivrait l'exemple du reste du monde et refuserait son consentement à une union si désavantageuse à sa sœur sous le rapport de l'intérêt. Je laisse à deviner au lecteur quel oracle lui avait inspiré cette crainte. Mais quel qu'il fût, il le troublait étrangement. Comment, en effet, régler sa conduite de manière à s'engager avec la sœur sans que le frère en fût instruit? À la fin, il prit la résolution de saisir toutes les occasions secrètes qui se présenteraient de faire sa cour à Miss Bridget, mais d'être, en la présence de M. Allworthy, aussi réservé qu'il serait possible. Conduite qui fut hautement approuvée par son frère. Il trouva bientôt les moyens de s'expliquer en termes précis avec sa maîtresse, dont il reçut une réponse dans la forme convenable, c'est-à-dire la même qui fut faite pour la première fois, il y a quelques 1000 ans, et qui nous a toujours été depuis transmise par tradition de mère en fille. Si j'avais à la traduire en latin, je la rendrais par ces deux mots « nolo episcopari », »« je ne veux pas être évêque ». Phrase d'un usage également immémorial dans une autre occasion. Le capitaine entendit parfaitement bien ce refus et recommença bientôt après ses poursuites avec plus de chaleur et d'empressement que jamais. Il fut encore refusé dans la forme requise. Mais à mesure qu'il augmentait l'ardeur de ses sollicitations, Miss Bridget, toujours avec la même convenance, diminuait l'ardeur de ses refus. Pour ne pas fatiguer le lecteur, en faisant passer sous ses yeux toutes les scènes de galanterie, qui, dans l'opinion d'un auteur célèbre, sont les plus agréables de la vie pour les acteurs, mais sont peut-être aussi ennuyeuses que fatigantes pour les spectateurs, le capitaine attaqua dans les formes, la citadelle se défendit dans les formes, et se rendit enfin à discrétion dans les formes. Pendant tout ce temps, qui dura l'espace d'un mois, le capitaine se tenait à une distance respectueuse de sa maîtresse en présence de son frère. Et plus il avait de succès auprès d'elle en particulier, plus il se montrait réservé en public. Quant à elle, elle ne se fut pas plus tôt assurée de son amant qu'elle se conduisit avec lui dans la société avec la plus grande indifférence, en sorte qu'il eût fallu à M. Allworthy toute la pénétration du diable, ou même quelques-unes de ses qualités les plus infernales, pour avoir conçu le plus léger soupçon de ce qui était déjà si avancé. Chapitre 12. Contenant ce que le lecteur peut probablement s'attendre à y trouver. Dans toutes les conventions, soit qu'il s'agisse de se battre, soit qu'il s'agisse de se marier, ou de toute autre affaire de cette nature, il ne faut pas beaucoup de cérémonie pour mettre les choses à fin, quand les deux parties sont réellement pressées. Tel était le cas présent, et en moins d'un mois, le capitaine et Miss Bridget furent mari et femme. La grande affaire alors fut de rompre la glace et d'instruire M. Allworthy. Le docteur s'en chargea. Un jour donc, que M. Allworthy se promenait dans son jardin, le docteur vint à lui et, avec toute la gravité qu'il put mettre sur son visage et toute la peine qu'il put affecter dans son maintien, il lui dit « Je suis venu, monsieur, pour vous faire part d'une affaire de la plus grande conséquence. Mais comment vous dire ce dont la seule pensée me trouble à l'excès ?» Alors il épuisa les invectives les plus amères contre tous les hommes et contre toutes les femmes, accusant les uns de n'aimer que leurs intérêts et les autres d'être si adonnés aux plus coupables inclinations que l'on ne pouvait jamais se fier entièrement à elles. « Aurais-je pu soupçonner, monsieur, dit-il, qu'une dame pourvue d'autant de prudence que de jugement et d'instruction se livrerait à une passion aussi indiscrète? Aurais-je pu imaginer que mon frère... Pourquoi l'appellerais-je ainsi? Il n'est plus désormais mon frère. » « Que dites-vous ? » lui répondit M. Allworthy. « Il est votre frère. Il est aussi le mien. »« Dieu me pardonne, monsieur, dit le docteur. Seriez-vous instruit du procédé choquant ?»« Tenez, M. Blifil, répliqua l'excellent homme, j'ai toujours eu pour maxime, dans le cours de ma vie, de tirer le meilleur parti de tout ce qui arrive. Ma sœur, quoique beaucoup plus jeune que moi, est cependant parvenue à l'âge de discrétion. S'il avait séduit une enfant, je ne lui aurais pas si facilement pardonné. Mais il faut supposer qu'une femme qui a passé 30 ans doit connaître ce qui peut faire son bonheur. Elle a épousé un homme qui n'est peut-être pas son égal en fortune. Mais s'il a à ses yeux quelque perfection qui puisse l'en dédommager, je ne vois rien à objecter à son choix. Je ne pense pas plus qu'elle que le bonheur consiste seulement dans une immense fortune. Peut-être que, d'après la déclaration que j'ai si souvent répétée, de consentir à presque toutes les propositions qui pourraient lui être faites, j'aurais dû m'attendre à être consulté en cette circonstance. Mais ces sortes de sujets sont d'une nature trop délicate, et il ne faut peut-être pas dédaigner tous les scrupules de la modestie. Quant à votre frère, je ne suis nullement en colère contre lui. Il ne m'a aucune obligation, et je ne pense pas qu'il fût dans la nécessité de me demander mon consentement, puisque la femme qu'il a épousée est, comme je l'ai dit, jouissante de ses droits et d'un âge à ne répondre de sa conduite qu'à elle-même. Le docteur accusa M. Allworthy de trop de douceur, répéta sa déclamation contre son frère et déclara qu'on ne pourrait plus désormais l'engager à le voir ni à l'avouer pour son parent. Il s'étendit ensuite sur la bonté de M. Allworthy, sur son indulgente amitié, et conclut par dire qu'il ne pardonnerait jamais à son frère de l'avoir mis en danger de perdre la part qu'il pouvait y avoir. M. Allworthy reprit ainsi, « Si j'avais conçu quelque ressentiment contre votre frère, je ne le ferais point partager à l'innocent, mais je vous assure que je n'en ai conçu aucun. Votre frère me paraît un homme de sens et d'honneur, je ne désapprouve point le goût de ma sœur, et je ne doute pas qu'elle ne soit également l'objet de son inclination. J'ai toujours pensé que l'amour était le seul fondement du bonheur dans l'état du mariage, puisqu'il peut seul faire naître cette vive et tendre amitié qui devrait toujours être le ciment de cette union. Et dans mon opinion, les mariages qui se contractent par d'autres motifs sont très criminels. Ils sont une profanation de la plus sainte cérémonie et finissent généralement par le chagrin et par le malheur. Car c'est bien sans doute une profanation de la plus sacrée des institutions que d'en faire un sacrifice brutal à la débauche ou à la soif des richesses. Et comment pourrait-on nommer autrement ces mariages que les hommes contractent purement en considération d'un bel extérieur ou d'une grande fortune? Nier que la beauté ne soit un objet agréable à l'œil, et même digne de quelque admiration, serait un mensonge ou une sottise. Beau et belle sont des épithètes souvent employées dans l'Écriture sainte, et toujours honorablement. J'eus le bonheur moi-même d'épouser une femme que tout le monde trouvait belle, et, je l'avoue franchement, je l'en aimais mieux pour cela. Mais faire de la beauté la seule considération du mariage, la convoiter assez fortement pour passer à cause d'elle par-dessus toutes les imperfections, ou l'exiger assez absolument pour dédaigner et rejeter la religion, la vertu et la raison qui par leur nature sont des qualités d'une beaucoup plus haute importance, seulement parce qu'une belle figure ne les accompagne pas, cette conduite est incompatible avec les devoirs d'un homme sage et d'un bon chrétien. Et c'est peut-être pousser trop loin la charité que d'en conclure que de telles personnes n'ont aucun autre but, en se mariant, que de satisfaire au plaisir des sens, pour lesquels on nous enseigne que le mariage n'a pas été institué. En second lieu, la prudence exige peut-être que l'on prenne dans le monde la fortune en quelque considération. Et je ne prétends pas absolument condamner cette précaution. Dans la constitution actuelle de la société, les dépenses de l'état du mariage, les soins que l'on doit à sa postérité, ne permettent pas de négliger, jusqu'à un certain point, les égards dus à ce qu'on appelle sa condition. Mais ces dépenses sont portées bien loin au-delà de ce qui est réellement nécessaire par la folie et la vanité qui créent abondamment un plus grand nombre de besoins que la nature. Un équipage pour la femme, un grand établissement pour les enfants, sont mis par l'usage sur la liste des objets de nécessité. Et pour être en état de faire ces dépenses, on néglige, on méprise tout ce qui est vraiment bon et solide, la vertu et la religion. Cette sottise monte quelquefois jusqu'à un degré où elle se laisse à peine distinguer de la démence. Je prends pour exemple le cas où un homme d'une fortune immense s'unit avec une femme sotte et malhonnête, qui lui est ou doit lui être désagréable, uniquement pour augmenter une fortune déjà assez considérable pour satisfaire même aux plaisirs les plus dispendieux. Certainement, si cet homme-là ne veut pas être accusé de démence, il doit avouer, ou qu'il est incapable de sentir les douceurs de la plus tendre des amitiés, ou qu'il sacrifie le plus grand bonheur qu'on puisse jamais goûter aux lois capricieuses, vaines et ridicules de l'opinion vulgaire qui doit à la folie sa force et son origine. M. Allworthy termina ici son discours que Blifil avait écouté avec la plus profonde attention, quoiqu'il lui en coûtât quelque peine pour prévenir de temps en temps une légère altération dans le jeu de ses muscles. Il fit cependant l'éloge de chacune des périodes de ses discours avec la chaleur d'un jeune théologien qui a l'honneur de dîner avec un évêque le jour même où sa grandeur est montée en chair. Chapitre 13. Qui finit le premier livre avec un exemple d'ingratitude qui, nous l'espérons, ne paraîtra pas naturel. Le lecteur, d'après ce que nous avons dit, peut imaginer que la réconciliation, si même on peut l'appeler ainsi, ne fut que pour la forme. Nous la passerons donc sous silence, et nous nous hâterons d'arriver à un sujet qu'on trouvera sans doute d'une plus grande importance. Le docteur avait instruit son frère de ce qui s'était passé entre M. Allworthy et lui, et avait ajouté avec un sourire « Je vous promets que je vous ai joliment traité. J'ai fait plus, j'ai absolument exigé du vieux gentilhomme qu'il ne vous pardonnât point. Car vous savez qu'après ce qu'il m'avait dit en votre faveur, je pouvais sans danger hasarder une pareille demande auprès d'un homme de son caractère. Et je voulais, autant pour vous que pour moi-même, prévenir la moindre possibilité d'un soupçon. » Le capitaine Blifil ne fit pas d'abord la plus légère attention à ce que lui disait son frère, mais par la suite il en tira un grand parti. Une des maximes que le diable, dans sa dernière visite sur la terre, laissa à ses disciples est qu'une fois parvenu au terme de notre ambition, il faut renverser d'un coup de pied l'échelle qui nous a servi à monter. C'est-à-dire que quand nous avons fait notre fortune par les bons offices d'un ami, nous sommes conseillés de nous en défaire le plus tôt possible. Je ne déciderai pas positivement si le capitaine se conduisit suivant cette maxime. Tout ce que je peux assurer avec certitude, c'est que ses actions tinrent beaucoup de ce principe diabolique. Et dans le fait, il est difficile de leur assigner un autre motif. Car il ne fut pas plutôt possesseur de Miss Bridget et réconcilié avec M. Allworthy qu'il commença à montrer à son frère une froideur qui augmenta de jour en jour et qui parvint enfin jusqu'à une grossièreté que tout le monde remarqua. Le docteur lui fit en particulier des remontrances sur cette conduite, mais il n'en put obtenir que cette simple déclaration. « Si quelque chose vous déplaît, monsieur, dans le château de mon frère, vous savez que vous êtes libre d'en sortir. » Cette ingratitude étrange, cruelle et presque inexplicable brisa absolument l'âme du pauvre docteur. Car l'ingratitude ne déchire jamais si cruellement le cœur que lorsqu'elle nous vient de la part de ceux pour l'avantage desquels nous nous sommes rendus coupables. Nos réflexions sur nos bonnes actions, de quelque manière qu'elles soient reçues ou reconnues par ceux en faveur desquels nous les avons faites, nous apporte toujours quelques consolations. Mais quelle est celle que nous pouvons recevoir sous le poids d'un malheur aussi affreux que la conduite ingrate de notre ami, quand notre conscience blessée nous force à rougir à nos propres yeux et nous reproche de l'avoir souillé en rendant service à un homme qui le méritait si peu. M. Allworthy parla lui-même au capitaine en faveur de son frère et désira savoir quelle offense le docteur avait commise, quand ce frère dénaturé eut la bassesse de dire qu'il ne lui pardonnerait jamais le tort qu'il avait voulu lui faire en s'efforçant de lui enlever son amitié. Cruauté dont, ajouta-t-il, il avait adroitement tiré l'aveu de sa propre bouche et qu'il lui était impossible d'oublier. M. Allworthy lui parla avec chaleur sur ce refus de pardonner qui, lui dit-il, ne convenait point à une créature humaine, et montra tant d'indignation contre un caractère implacable que le capitaine parut enfin convaincu par ses arguments et eut l'air de se réconcilier. Quant à sa femme, elle était encore dans le premier mois de son mariage et si passionnément éprise de son mari qu'il ne lui paraissait jamais avoir tort. La haine qu'il avait pour quelqu'un suffisait pour exciter la sienne. Le capitaine, d'après les instances de M. Allworthy, s'était, comme nous l'avons dit, extérieurement réconcilié avec son frère. Cependant, la même rancune demeurait au fond de son cœur, et il trouva tant d'occasions de la lui faire sentir que le château devint enfin insupportable au pauvre docteur, qui aima mieux se soumettre à tous les inconvénients qu'il pourrait rencontrer dans le monde que de supporter plus longtemps ces lâches et cruelles insultes de la part d'un frère pour qui il avait tout fait. Il eut une fois le projet d'instruire M. Allworthy de tout, mais il ne put se déterminer à une confession qui lui laissait une si grande part du crime. D'ailleurs, plus il représenterait son frère sous un aspect odieux, plus sa propre offense paraîtrait grave aux yeux de M. Allworthy, et plus il aurait lieu de redouter son ressentiment. Il excusa donc son départ sous un prétexte d'affaires et promit de revenir bientôt. En prenant congé de son frère, il montra un contentement si adroitement fin que le capitaine, jouant son rôle avec la même perfection, M. Allworthy resta parfaitement convaincu de la sincérité de leur réconciliation. Le docteur s'en fut directement à Londres, où il mourut bientôt de douleur, maladie qui tue beaucoup plus de gens qu'on ne s'imagine généralement, et aurait bien le droit d'obtenir une place dans la liste des maladies mortelles. Si elle ne différait en un point de toutes les autres, c'est qu'aucun médecin ne peut la guérir. Jusqu'à présent, et d'après les plus exactes recherches dans l'histoire des premières années de ces deux frères, outre la maudite et infernale maxime que j'ai citée plus haut, je trouve une autre raison de la conduite du capitaine. Il était plein d'orgueil et avait toujours traité son frère, dont le caractère était tout différent, avec l'air de la supériorité, quoique le docteur fût plus savant et que beaucoup de gens lui trouvassent plus d'esprit. mais c'est précisément ce que le capitaine ne pouvait souffrir. Car bien que l'envie soit une passion très malfaisante, son activité est encore augmentée par le mélange du mépris pour celui qui en est l'objet. Et je crains fort que lorsqu'un bienfait reçu se joint à ces deux horribles sentiments, la haine et l'ingratitude ne soient le produit des trois. Fin du livre premier.